Radio Grand Ciel présente Histoire et Mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Paolo Davi. Au micro, Christiane Blain. Je suis très heureuse de réaliser cette émission avec Laura Vaux, avec qui nous allons évoquer Maria Valtorta et son œuvre principale, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Une œuvre rédigée en 1944 comme une version amplifiée de l'Évangile retraçant la vie du Christ. Laure Avaux, bonjour.
Bonjour Christiane Blanc.
Alors, vous connaissez bien l'œuvre de Maria Valtorta. Vous avez d'ailleurs assisté à une conférence à Chartres récemment. Qui est donc Maria Valtorta ?
Alors, Maria Valtorta est une mystique italienne qui a reçu des locutions et des visions du Christ. Elle est née en 1897, près de Naples, dans une famille assez modeste. Et en fait, le jour de ses 23 ans, elle est attaquée par un anarchiste qui la blesse au rein avec une barre de fer. En 1925, elle a 28 ans et elle décide de se consacrer à l'amour miséricordieux. Puis ensuite, en 1931, elle s'offre au Seigneur comme victime expiatoire pour les péchés des hommes. Et elle restera définitivement clouée au lit en 1934 jusqu'à sa mort 27 ans plus tard.
Est-ce qu'il y aurait un événement, un cadre spécifique dans sa jeunesse qui aurait pu marquer ou bien déterminer chez elle une aptitude particulière pour l'écriture et qui se révélera par la suite?
Pas vraiment, c'est plutôt l'inverse. En réalité, au départ, sa vie est assez terne. Elle connaît une jeunesse sans affection. Par deux fois, ses fiançailles sont cassées par sa mère qui est assez autoritaire et intrusive. Et puis son père, qu'elle aimait beaucoup, décède lorsqu'elle est encore une jeune femme. Et elle doit supporter également des maladies successives et des soins assez douloureux. C'est loin d'être une jeunesse dorée et facile humainement, on va dire. Et sinon, Maria Valtorta, c'est une personne simple, qui n'a pas particulièrement de grandes aptitudes intellectuelles. Elle a reçu une instruction correcte, mais assez restreinte. La seule chose singulière, je dirais, c'est qu'elle a une foi très vive qui va grandir au fur et à mesure des années. Et son confesseur relatera à ce propos qu'il est très impressionné par sa grandeur d'âme.
En fait, cette femme qui est vraiment simple et souffrante, est-ce qu'elle va pouvoir écrire une œuvre aussi importante? Et à quel moment se met en place cette œuvre?
Tout commence en 1943, lorsqu'elle rédige son autobiographie. C'est une chose qu'on lui avait demandé son confesseur, mais on peut dire qu'au départ, elle n'avait pas vraiment envie de le faire. Elle avait une certaine réticence, parce qu'elle pensait ne pas avoir grand-chose à dire, et c'était un petit peu par humilité. Finalement, elle va obtempérer, et ce faisant, elle va avoir un premier dialogue avec Jésus. Et puis les échanges se feront de plus en plus intenses, et culmineront avec les premières visions qui s'ouvrent donc sur Jésus mourant sur la croix. Là, nous sommes alors le jeudi saint, 1943. Jésus lui demande d'être à son écoute, comme au pied de sa croix, tourné vers lui et disposé en fait à recevoir sa force de cette croix. Donc à ce moment-là, elle a 46 ans, ça fait déjà 23 ans qu'elle souffre, et plus particulièrement depuis 9 ans, puisqu'elle est malade, grabataire, dans un lit et complètement immobile. Elle pensait en fait que sa fin était assez proche, mais là, elle se rend compte que désormais, sa vie a un sens dans le Christ à sa suite.
Et alors, je pense qu'elle va commencer à recevoir des scènes d'évangile, c'est ça?
Exactement, elle va recevoir des scènes d'évangile sans suite apparente, dans le désordre, dirait-on. Elle va les écrire d'une seule traite et sans rature. Donc ça va représenter 15 000 feuillets de cahiers d'écoliers sur une durée de moins de 4 ans. Et c'est de ces cahiers que se constituera cette œuvre monumentale, avec les scènes remises dans un ordre chronologique qui montre une parfaite cohérence entre les scènes et qui constitue donc une œuvre en 10 volumes, soit 4800 pages.
Mais alors, est-ce qu'elle va avoir ensuite d'autres illuminations, d'autres visions?
Oui, elle aura en parallèle d'autres leçons édictées, notamment les leçons sur l'épître de saint Paul aux Romains, qui est d'une bouleversante profondeur exégétique. Elle va recevoir effectivement d'autres textes qui formeront d'autres œuvres. En 1956, elle abandonnera tout à Dieu, car l'œuvre rencontre des premières oppositions dans sa diffusion. Elle s'enfermera graduellement dans un isolement psychique et elle décédera en 1961 en disant, je cite, « J'ai fini de souffrir, mais je continuerai à aimer ».
Est-ce qu'elle est ensevelie aussitôt ?
Elle est ensevelie dans la basilique même de l'Annonciation à Florence. Et en 2001, les servites de Marie ont demandé l'introduction de sa cause en béatification.
Alors, cette œuvre, elle est le fruit d'un don littéraire ? C'est une invention ? Ou bien a-t-elle réellement revu, entendu des paroles et des événements de la vie du Christ ? Ce qui serait quand même inouï et unique.
En fait, pour comprendre cette œuvre et le don, la mission reçue par Maria Volterra, il y a deux façons d'aborder la chose. Il y a deux entrées possibles.
Alors j'aimerais bien que vous nous disiez quelles sont ces deux voies qui vont permettre de comprendre cette femme.
Eh bien, il y a la voie scientifique d'un côté, avec les faits, et puis la voie spirituelle et religieuse. Je vais développer tout cela pour nos auditeurs.
Alors peut-être d'abord, prenez la porte scientifique.
Tout à fait. Alors, en premier lieu, l'œuvre de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé est en soi déjà une prouesse littéraire. Je m'explique, elle comporte plus de 10 millions de caractères sur une période de 3 ans et 3 mois. À titre de comparaison, on dira que l'œuvre la plus longue est celle bien connue de Marcel Proust à la recherche du temps perdu, avec un peu plus de 9 millions de caractères, mais qui, elle, a été écrite en 16 ans.
Mais est-ce qu'il y a un plan qui a été défini quand elle a commencé à écrire ?
Pas tout à fait. Justement, il n'y a pas de plan prédéfini au départ. Elle reçoit donc les scènes dans le désordre et elle retranscrit 166 visions sans chronologie. Or, aucune rature n'est présente dans les cahiers. Elle écrit tout cela au fil des dictées et des visions et ne revient que très rarement sur ce qu'elle a écrit, principalement pour rajouter un mot ou un détail supplémentaire. Donc c'est très limpide.
En fait, c'est déjà une œuvre très dense et fournie. Est-ce qu'on peut dire du contenu de cette œuvre alors que c'est aussi très dense ?
Oui, ce qui est frappant, c'est qu'elle a des connaissances très érudites et variées pour quelqu'un qui n'a reçu qu'une instruction et une éducation, somme toute, courante pour son époque.
Mais peut-être elle a bénéficié d'aide autour d'elle, d'historiens, de sa famille, non ?
Alors, ce n'est pas vraiment le cas. Déjà, elle ne disposait pas de bibliothèque chez elle, ni à Viareggio, dans sa ville de résidence. D'autre part, sa première Bible, elle ne l'a possédée qu'à 30 ans. Et elle certifie aussi n'avoir jamais entendu de sermon, ni de conférence de carême, ni suivi de cours de religion. Et sa mère, d'ailleurs, lui interdisait toute visite à l'église en dehors des messes dominicales auxquelles elle assistait. Donc sa seule culture religieuse tenait en quelques livres, tels que l'Imitation de Jésus-Christ, donc c'est assez limité en comparaison avec la grande profondeur des thèmes et des sujets abordés.
Oui, mais alors peut-être qu'elle avait d'autres écrits à sa portée, ou bien des connaissances, ou bien peut-être une formation professionnelle. Que peut-on en penser de cela ?
Là aussi, aucun indice ne permet de penser qu'elle aurait pu accumuler des notes. Elle était cantonnée par sa mère à des tâches ménagères. Rappelons-nous qu'elle a arrêté ses études à 18 ans et hormis un service d'infirmière pendant la Première Guerre, elle n'a pas eu la possibilité de développer des connaissances aussi poussées dans différents domaines qu'on retrouve dans l'œuvre. Donc elle n'a pas le moyen d'explorer le temps ou les lieux dont elle parle avec précision. Et en fait, dans son entourage ne se retrouve aucun spécialiste qui aurait pu l'aider. Elle semble retranscrire ce qu'elle entend et ce qu'elle voit.
Alors c'est incroyable parce que c'est un auteur qui n'a pas de connaissances, qui est assez, disons, modeste, ignorante au départ, et quand même, elle a des connaissances très précises puisqu'elle va les relater.
On est assez surpris par les connaissances très fouillées. Par exemple, dans son ouvrage, elle va évoquer 750 personnages, dont 270 sont authentifiés par des recoupements historiques. Ce qui est incroyable, c'est que les références chronologiques et psychologiques sont parfaitement cohérentes, malgré le fait d'avoir reçu, encore une fois, dans le désordre, les scènes de la vie du Christ. Après, pour la publication de l'œuvre, elles ont été remises dans l'ordre chronologique, bien sûr. Et c'est ça qui est fascinant, c'est de voir à quel point les personnages se révèlent au fil de l'œuvre. Et on observe comme ça une parfaite présentation de leurs évolutions personnelles et psychologiques.
Et est-ce qu'aussi on peut voir qu'il y a des références bibliques à l'Ancien Testament ? Parce que c'est ça aussi qu'on peut se poser comme question.
Exactement. Il y a 3133 références à l'Ancien Testament. Donc autant dire une somme de connaissances immense et difficilement possible à relater sans connaissance d'exégèse. Sachant qu'en plus, elle ne maîtrisait absolument pas ses sujets au départ et aucune erreur n'a été constatée. Au contraire, elle apporte même des éclairages sur certains passages bien connus des évangiles.
Mais elle était en bonne santé quand elle a fait ça ?
Eh ben non, n'oublions pas qu'elle est alitée et en mauvaise santé au moment où elle rédige ses écrits, donc ses forces physiques et psychologiques sont quand même assez limitées. Donc c'est pour ça qu'on est frappé vraiment par l'érudition des connaissances exposées.
Alors vraiment, comment avons-nous pu nous rendre compte de cette somme de connaissances que l'on trouve dans cette œuvre ?
En fait, la démarche scientifique d'analyse de l'œuvre a été la volonté de Jean-François Lavert, qui est auteur de plusieurs livres, dont deux volumes intitulés « L'énigme Maria Valtorta ». Au départ, son objectif était de montrer à sa femme, lectrice assidue de cette œuvre, que par l'analyse de données précises, il serait possible de démontrer que tout cela n'était qu'une invention, en fait, et sorti de l'imaginaire de l'auteur. Donc, il a regroupé 10 000 données recensées pendant des années, dans des domaines très variés, comme la topographie des lieux, la culture, les arts, l'astronomie, la botanique, la géologie, la géographie, etc. Et il a scruté chaque détail. Donc, point par point, il a fait l'inventaire avec une méthode scientifique et il a conclu à un pourcentage de 99,6% de validation à divers degrés d'authenticité. Le pourcentage restant, soit 0,4%, est dû en fait à l'appréciation humaine de la narratrice. Donc on constate que ce qui pourrait être contestable, finalement, est assez résiduel.
Alors on peut revenir quand même sur les personnages évoqués dans l'œuvre. Il y en a combien ?
Alors, comme j'ai dit, il y en a un petit peu plus de 750. Or, dans l'Évangile, nous en connaissons une soixantaine identifiées, soit un peu moins de 10%. Elle mentionne des personnages qui ont été passés au crible de l'analyse et dont la véracité de l'existence a pu être vérifiée par des sources historiques pour un cas sur trois, soit 262 au total. Donc, comment Maria Valtorta, sans données ni instructions, rejoint-elle si souvent les sources historiques les plus oubliées et difficiles à connaître sans expertise et sans recherche très fouillée? C'est absolument étonnant.
Alors, vous évoquiez d'autres domaines, outre les personnages de l'œuvre. Que pouvez-vous nous en dire ?
Les endroits, par exemple, où se déroulent les événements, elle décrira 450 lieux géographiques, en situant non seulement les actes de Jésus connus des évangiles, mais encore d'autres récits extra-évangéliques qui lui sont propres. Bien évidemment, elle ne s'y est jamais rendue, et pourtant ils sont décrits avec une précision remarquable et vérifiés avec surprise par des archéologues, parfois des dizaines d'années après la rédaction des écrits. Alors, le père François-Paul Dreyfus de l'École française et archéologique de Jérusalem a écrit, je cite, « Je suis très impressionné de trouver dans l'œuvre de Maria Valtorta 6 ou 7 villes qui n'apparaissent ni dans l'Ancien ni dans le Nouveau Testament. Ces noms ne sont connus que par quelques rares spécialistes et grâce à des sources non bibliques. »
Alors, comment les a-t-elle trouvées ?
Par exemple, lors de la fuite en Égypte, lors du massacre des innocents par Hérode, la Sainte Famille se réfugie dans la ville de Matarea. Alors Maria Valtorta précise que les habitants voient une seule et unique pyramide. Donc Jean-François Lavert explique qu'en effet, à cet emplacement, c'est le seul endroit où on voit uniquement la pyramide de Khéops, parce que celle-ci est plus grande que les deux autres, Khéphren et Mékérinos, qui sont situées derrière elle, dans l'alignement. Donc elle ne pouvait pas décrire les deux autres pyramides, puisqu'elles sont cachées. En fait, sa description est parfaitement juste, bien que Maria Valtorta en fait, ne pouvait pas connaître l'orientation précise de la ville par rapport aux pyramides.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
خالص ليبس
Nous sommes de retour dans l'émission Histoire et mémoire. Vous nous parliez de Maria Valtorta et de son œuvre littéraire, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, et plus particulièrement de l'analyse scientifique des données étudiées par Jean-François Lavert, notamment les lieux où se déroule l'événement.
Oui, je parlais donc des données archéologiques.
Et vous avez d'autres exemples ?
Oui, un autre exemple, en 1945, Jésus dit à Maria Valtorta au sujet de Bethsaïde, qui est le village des apôtres Pierre et André. Il dit, je cite, « Aujourd'hui, on recherche ce village au bord du lac, mais il faudrait le chercher loin à l'intérieur des terres, car 2000 ans d'alluvion du Jourdain ont éloigné les rives du lac de leur emplacement initial. » En fait, 40 ans plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Au milieu des années 80, des fouilles ont permis de situer justement cet ancien village de pêcheurs sur une colline à 1,5 km du lac.
Je suppose que Maria Valtorta inscrit le déroulé des événements dans un cadre qui permet de découvrir la vie telle qu'elle était à l'époque du Christ. Y a-t-il des choses vraiment remarquables à ce sujet ?
Oui, tout à fait. Elle décrit très bien les us et coutumes en vigueur à l'époque du Christ. Elle emploie par exemple un vocabulaire très particulier de l'alimentation juive ou romaine. Elle utilisera le mot carosette, qui est un gâteau traditionnel du rituel pascal, la posca, une boisson vinaigrée pour les légionnaires, la falerne, un cru romain de compagnie, ou encore cicéra, boisson fermentée juive, parfois traduite par bière. Donc on voit qu'elle utilise un vocabulaire riche et technique. Elle insère aussi avec propos des références aux philosophes de l'Antiquité, et ces références mentionnent parfois des œuvres aujourd'hui tombées complètement dans l'oubli.
Alors, est-ce que aussi, pour les coutumes, elle s'y connaît, je dirais?
Oui, elle s'y connaît, et par exemple, elle va préciser comment teindre un vêtement avec de la pourpre. Ensuite, elle va décrire les outils du charpentier, et ils sont effectivement conformes à ce que l'on en sait aujourd'hui. Mais c'est son manque de vocabulaire en fait technique qui, par exemple, lui fait commettre un anachronisme. Elle croit deviner un tournevis. En fait, il s'agit probablement d'un bédane, c'est-à-dire un ciseau à bois. Elle va aussi évoquer un arère tiré par des journaliers. En fait, c'est un instrument très ancien qui sert au labour de petites parcelles qui ne peuvent pas être atteintes par des charrues. Et en fait, cet usage de cet outil est confirmé par des hiéroglyphes égyptiens ou par Pline, par exemple, dans son livre « Histoire naturelle ». Il y a aussi d'autres points sur lesquels elle ne se trompe pas. Par exemple, elle ne confond pas les monnaies romaines d'usage courant avec les monnaies du temple d'usage religieux. Elle a aussi une connaissance sur la religion juive. Elle va faire des références pertinentes aux 613 préceptes du judaïsme, comme à ses constituants, la Halakha et la Haggadah. Et contrairement aux traditions contemporaines, en fait, elle maintient la traduction de Jéhovah pour le tétragramme IHVH, mais elle notera une phonétique à mi-chemin entre la prononciation Jéhovah et Yahvé. Et ça, c'est une théorie qui est apparue très récemment, donc c'est tout à fait singulier.
On voit que l'auteur expose des choses dont elle n'a pu prendre connaissance par elle-même, tout de même des données pointues et parfois découvertes après sa mort. Cela est surprenant. Il a fallu, j'imagine, de nombreuses heures d'analyse, et vraiment cela dans différents domaines, pour vérifier chaque détail, chaque description.
Oui, absolument. Jean-François Lavert a passé des années à vérifier point par point les descriptions. Prenons par exemple les événements. Maria Valtorta relate à un moment donné dans l'œuvre une communauté essénienne dans la région proche de Qumran. En fait, il se trouve que ce site n'a été découvert qu'en 1948, et à cette date, son manuscrit était déjà présenté à Pie XII, donc elle ne pouvait pas avoir connaissance de ses travaux sur le sujet au préalable. Ensuite, elle évoque des futurs sièges qui auront lieu dans plusieurs villes, celui de Jérusalem et de Masada, donc ceux-là sont bien connus de l'histoire, ils ont eu lieu, mais aussi celui plus ignoré de Gamala, une ville dont elle décrit les fortifications dans l'œuvre. Et en fait, ces fortifications ont justement été découvertes 30 ans après les descriptifs. Donc ça, c'est assez inouï. Et puis un autre sujet, lors de la description de la passion du Christ, elle va décrire très précisément le clouage des mains de Jésus par les bourreaux. Alors le premier clou est enfoncé dans le poignet, et le second, qui est trop éloigné des prétrous, est finalement cloué dans la paume. Et ça, c'est conforme aux descriptifs d'autres voyantes et aux analyses du linceul de Turin.
Et alors, quant au cadre de vie, la nature qu'elle observe et décrit, cela a été aussi étudié?
Oui, là aussi, elle manifeste des connaissances et un à-propos exceptionnel. Hein. Elle va citer 150 plantes, 200 espèces animales, 50 espèces minérales. Par exemple, la fauvette dont elle parle, c'est bien la fauvette d'Arabie qui est présente en Palestine et non la fauvette commune d'Europe, bon, qu'elle pourrait éventuellement connaître.
Est-ce qu'elle cite aussi des fleurs sauvages ?
Oui, elle décrit très bien la nature. Elle cite par exemple la marjolaine sauvage que Jésus donne à une chèvre dans un passage du texte. Et cette espèce, justement, pousse naturellement dans les campagnes palestiniennes. Et elle n'a été importée ensuite en Europe qu'au XVIe siècle. Elle évoque aussi le nabaka, un jujubier dont provient la fameuse couronne d'épines, un arbre qui est fortement épineux et très répandu dans la zone géographique. Je pourrais vous donner encore énormément d'exemples, mais bon, là, on y passerait beaucoup de temps. En réalité, Jean-François Lavert a consigné hein, tous ces détails dans plusieurs ouvrages qui montrent à quel point l'œuvre de Maria Valtorta est d'une précision et exactitude incroyable.
Alors que peut-on dire de ces descriptions de scènes ? Je veux dire, au point de vue de la chronologie des faits, est-ce que cela a été vraiment analysé ?
C'est également un point très surprenant et intéressant. Dans l'œuvre de Maria Valtorta, il faut savoir qu'il y a 5000 indications de temps, dont 230 descriptions lunaires. Et c'est à partir de ces données que Jean Aulagnier et Jean-François Lavert ont pu, avec un système qu'on appelle planning en chemin de fer, qui est une méthode utilisée en gestion de projet, en fait, ils ont pu établir un calendrier au jour le jour de la vie publique du Christ, qui aurait duré en tout 3 ans et 3 mois. Alors, pour vous donner un petit aperçu, on remarque par exemple que lors de l'agonie du Christ dans le jardin de Gethsémani, l'auteur indique que la lune est pleine. Et ça correspond donc bien avec la date du 14 Nisan, selon le calendrier juif. Mais par ailleurs, il y a d'autres descriptions qui ne peuvent pas être validées autrement qu'avec de puissants logiciels d'astronomie, hein, et également la connaissance précise de la topographie. Ça, évidemment, Maria Valtorta ne le possédait pas. Donc ils ont pu faire tout ce travail, notamment grâce au logiciel Stellarium, qui rend possible la vision précise du positionnement des astres à une époque très ancienne. Et ça leur a permis de valider ensuite les 874 descriptions astronomiques.
Le récit de Maria Valtorta semble alors confirmer qu'elle avait une réelle vision de la vie du Christ il y a 2000 ans. Ces convergences entre ces récits, la réalité historique, géographique, sociologique, zoologique, posent la question : comment Maria Valtorta, sans culture, sans diplôme, sans érudition, retrouve-t-elle les données de millénaires ? En fait, le hasard n'explique pas cela.
Eh oui, c'est une très bonne remarque. Quelque part, il peut y avoir une piste de réflexion dans l'intitulé de l'œuvre, c'est-à-dire on peut se demander en premier lieu si Maria Valtorta a voulu annoncer un nouvel évangile, comme pourrait le suggérer le titre. Eh bien, la réponse est non, parce qu'en réalité, le titre n'est pas de Maria Valtorta. À l'origine, elle n'en avait donné aucun, parce qu'elle souhaitait rester anonyme. Et l'œuvre a été publiée pour la première fois sous le titre « Le poème de l'homme-dieu ». Dans la langue d'origine en italien, « Il poema dell'uomo Dio ». Et c'est l'édition française de l'œuvre et le traducteur Félix Sauvage qui, en 1985, ont opté pour le titre que nous connaissons et qui peut paraître ambigu, mais ils ont souhaité nommer l'œuvre à la manière dont Maria Valtorta avait coutume d'en parler, c'est-à-dire l'évangile tel qu'il m'a été révélé.
Et alors, qu'est-ce qui pourrait distinguer Maria Valtorta d'autres voyantes ou mystiques reconnues par l'Église catholique qui ont aussi apporté des éclairages tout au long des siècles ?
Simplement par le fait qu'elle a elle-même écrit les visions reçues personnellement et immédiatement, à la différence d'autres voyantes, comme par exemple la vénérable Maria d'Agreda au XVIIe siècle, qui, elle, écrira 33 ans après la rédaction de ses visions. Ou bien on peut citer la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, une Allemande au XVIIIe siècle, qui, elle, n'a rien écrit elle-même, car c'était le poète et romancier Clemens Brentano qui consignait ses entretiens et, de retour chez lui, les mettait par écrit. Et les notes n'ont d'ailleurs été publiées que bien après la mort d'Anne-Catherine Emmerich.
Mais en fait, Maria Valtorta, c'est vraiment un autre cas.
Exactement, c'est un autre cas. Et d'ailleurs, le Christ la reprenait quand elle se laissait aller à des distractions ou des imprécisions. Il lui dit, je cite, « Souviens-toi d'être tout à fait scrupuleuse pour répéter ce que tu vois. Même une bagatelle a de la valeur. Il ne t'est donc pas permis de l'escamoter. Dans la hâte d'écrire, il t'arrive d'omettre quelques détails. Il faut l'éviter. Mets-les au bas des pages, mais indique-les tous. » Voilà, et ailleurs, il dira, « Toute manifestation du surnaturel est signe de contradiction pour les hommes. »
Mais avec tout ce que contient l'œuvre, il y a une quantité de faits, de personnages, comme on l'a évoqué, qui ne se retrouvent pas dans tous les évangiles.
Oui, tout à fait. Comme on avait dit, 750 personnages. Beaucoup d'événements en plus des évangiles, mais à ceux qui s'en étonneraient, en fait, Jésus rappelle divers passages des évangiles où sont simplement évoqués le nombre de ses miracles et des gestes, puisque pendant sa vie publique, il allait, il venait, il guérissait, il écoutait, il rencontrait des personnes. Et par exemple, le verset final de l'évangile de Saint Jean dit bien, je cite, « Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on en écrirait. » Donc, ce qui veut dire aussi que même dans l'œuvre de Maria Valtorta, tout n'y est pas consigné de manière exhaustive, mais simplement ce que le Christ a voulu qu'elle relate.
Pourrait-on dire que c'est un livre inspiré alors ?
Alors, pour vous répondre, je vais citer un extrait contenu dans les cahiers de 1945 à 1950, où en fait, le 28 janvier 1947, Jésus cite très clairement l'œuvre de Maria Valtorta par rapport à l'Évangile. Je cite. L'ouvrage livré aux hommes par l'intermédiaire de Maria Valtorta n'est pas un livre canonique. Néanmoins, c'est un livre inspiré que je vous accorde pour vous aider à comprendre certains passages des livres canoniques, et en particulier ceux que fut ma mission de maître, pour que vous me connaissiez par mes paroles, moi qui suis la parole. Je ne prétends pas que l'œuvre soit un livre canonique, et encore moins mon porte-parole, que son ignorance absolue dans ce domaine empêche même de distinguer les théologies dogmatiques, mystiques ou ascétiques. Néanmoins, je vous déclare en vérité que c'est un livre inspiré car Maria Valtorta est incapable d'écrire des pages qu'elle ne comprend même pas si je ne les lui explique pas moi-même.
Alors peut-être pouvez-vous maintenant nous faire entrer par la deuxième porte, comme vous le disiez au début de notre entretien. Quelle est donc cette deuxième approche et qu'apporte-t-elle ?
Alors, c'est une excellente transition avec ce que je viens de dire précédemment. Le Christ rappelait qu'il est la parole. Eh bien, cette deuxième approche, cette deuxième porte, on va dire, c'est la porte spirituelle et religieuse. Cette œuvre met en relief un processus surnaturel qui expose les 1200 jours de vie publique de Jésus et permet d'entendre et de voir cela. J'insiste sur les deux verbes, voir et entendre. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la transmission était orale, donc tout se transmettait par les mots, la répétition des textes de génération en génération grâce à la mémoire des individus. On peut dire que la capacité de restitution de ce qui était prononcé pouvait être environ de 50%, ce qui est déjà beaucoup, puisqu'à cette époque, c'était la manière privilégiée de transmettre les savoirs. Donc la population était formée, depuis leur enfance, à exercer des aptitudes et leur mémoire. Et en fait, c'est ainsi qu'ont fait les quatre évangélistes, hein, dont deux n'ont pas connu le Christ. Aujourd'hui, on peut estimer la capacité de restitution de données reçues oralement d'environ 25%. Donc ça a beaucoup diminué car d'autres moyens se sont développés, notamment les supports écrits, et que nous n'avons plus ces facultés liées à la tradition de l'époque. Donc comme je disais, Maria Valtorta permet d'entendre les paroles du Christ, les mêmes paroles que les apôtres ont entendues et dont ils ont restitué une partie. En fait, c'est un vrai cadeau. Et l'objectif de Jésus est de pouvoir être réentendu, que la bonne nouvelle soit réévangélisée et donc permettre une rencontre personnelle avec lui. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on l'écoute, on l'entend et on reçoit quelque chose. Bon, on donne aussi en retour, c'est ce qu'on appelle une relation. Et en fait, de cette relation avec le Christ, de cette parole reçue, on peut découvrir Dieu. Et c'est vraiment formidable parce qu'on a la possibilité de passer 3 ans avec Jésus, d'entendre les phrases utilisées par le Verbe lorsqu'il était parmi les hommes, et tout ça sans erreur dogmatique, c'est important de le souligner. Et on peut ensuite observer les bons fruits que cela produit dans les cœurs. Un spécialiste de cette œuvre disait « C'est réellement l'évangile que nous avons dans les mains, non un autre ou un nouveau, mais l'évangile éternel exprimé une seconde fois. » Et d'ailleurs, Jésus dit à Maria Valtorta, je cite « Lisez cette œuvre et faites-la lire ».
Alors nous arrivons à la fin de cette première émission consacrée à Maria Valtorta. Vous reviendrez dans une prochaine émission, cette fois, pour nous parler de développement de cette œuvre. Comme vous le disiez au début de notre entretien, cela n'a pas toujours été facile, ni pour l'auteur, ni pour ceux qui ont souhaité la faire connaître, cette œuvre.
Oui, on verra ensemble que ça a pris du temps, que la propagation de l'œuvre a connu des hauts et des bas, et on reviendra également sur certaines difficultés encore actuelles. Voilà. En attendant, j'invite nos auditeurs qui voudraient en savoir plus à aller sur les différents sites internet dédiés, comme par exemple www.associationmariavaltorta.org ou bien encore www.maria-valtorta.org.
Eh bien, un grand merci. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci infiniment.
Merci, Chrétienne.